Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel de ce mercredi 18 décembre 2019. Comprendre ce qui nous arrive. Comprendre ces contestations, mobilisations, grèves qui paralysent le pays. C'est une journée spéciale sur France Culture qui s'ouvre, intitulée « En raison d'un conflit social ». Et c'est une journée pour écouter des témoignages, tenter de comprendre et d'analyser les situations, confronter des points de vue, éclairer ce vaste sujet en passant aussi par l'histoire, la philosophie, l'économie, les sciences, la culture. Toutes les émissions de notre antenne seront consacrées à cette crise que nous vivons peut-être différemment, mais que nous partageons ensemble. Mon invité ce matin est le cinéaste Stéphane Brisé. Stéphane Brisé parce qu'il a réalisé des films sur les conflits sociaux, comme on dit. Mais comment fait-on dans une époque saturée d'images pour faire un film de fiction et de réflexion pour raconter les crises politiques contemporaines? Stéphane Brisé, il faut le rappeler, est l'auteur de La loi du marché, sorti en 2015 et qui avait fait plus d'un million d'entrées en salle. Et surtout En guerre, film sorti l'année dernière, les deux films avec son acteur fétiche Vincent Lindon, deux films en prise directe avec les luttes syndicales d'aujourd'hui face à des logiques néolibérales de plus en plus brutales. Stéphane Brisé donc est le premier invité de notre journée spéciale sur France Culture. Bonjour Stéphane Brisé.
Bonjour.
C'est donc vous le premier intervenant de cette journée spéciale sur France Culture. Vous, parce que vous êtes réalisateur. Vous, parce que vous êtes intéressé aux mouvements sociaux. Vous avez même réalisé des films très en prise directe avec tout ce qu'a connu la France ces dernières années. Vous en préparez un, puisque vous allez être en tournage bientôt, qui sera de cette même veine, c'est-à-dire une veine sociale. Avant de parler de comment représenter justement les mouvements sociaux au cinéma, du recul qu'il faut avoir pour essayer d'imaginer une fiction, je voudrais avoir votre réaction à chaud sur toutes les images qui nous arrivent aujourd'hui par les télévisions, qu'elles soient publiques ou privées, ou par internet, de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire les dernières séquences sociales depuis le mouvement des Gilets jaunes jusqu'à ces grèves contre la réforme des retraites. Comment vous les voyez, ces images? Comment vous les analysez?
Je suis heureux que ce discours-là surgisse dans l'espace public. Je trouve que c'est un pays qui ne se laisse pas complètement aller quand ça a surgi avec les Gilets jaunes. Je trouvais ça salutaire et je trouve ça encore salutaire que des gens se mobilisent face à un discours d'opposition, des oppositions de soi-disant des privilégiés contre face à des non-privilégiés. Ce discours-là du gouvernement et des politiques, droite, gauche, tout ce qu'on veut, et République en marche aujourd'hui, c'est un discours, je trouve, d'une indécence absolue, d'essayer de faire passer les règles du néolibéralisme en opposant les gens dans un pays. Je trouve ça d'un danger absolu.
Pour parler de ces images qui nous abreuvent, est-ce qu'elles nous tiennent au courant de quelque chose, d'une réalité, d'un véritable rapport de force? Est-ce que les images racontent une histoire?
Moi, je pense que les images qui surgissent dans les médias, 99% du temps, elles ne racontent pas d'histoire. Elles ne racontent pas d'histoire parce qu'elles n'ont pas de passé. Elles existent ici et maintenant. Et évidemment, pour qu'elles puissent passer en boucle, généralement, il faut qu'elle soit spectaculaire. Alors, au moment des conflits des Gilets jaunes, on passait en boucle une statue cassée à l'Arc de Triomphe, quelques vitrines cassées. Il faut du spectaculaire. Et à partir du moment où on montre ce spectaculaire, parfois des choses qui peuvent être perçues comme violentes, on ne raconte rien, parce que c'est hors contexte. Et évidemment, avec ces images-là, qui provoque souvent une forte émotion, c'est très facile pour les politiques de bomber le torse et de désigner les méchants, donc les manifestants, avec qui on ne peut évidemment pas parler, puisqu'ils ne sont que source que de violence.
Et ça marche dans les deux sens, hein. Il y a aussi des images des oppositions, des images qui montrent aussi les violences policières de la même manière, spectaculaire.
Oui, bien sûr, mais on n'est que dans la représentation du spectaculaire et avec la fiction, en tout cas celle qui moi m'intéresse enfin, il y a plein de fictions qui m'intéressent, mais en tout cas, celle que j'ai envie de fabriquer en ce moment, c'est finalement fabriquer l'image manquante, hein, celle que les médias ne veulent pas ou ne peuvent pas ou ne savent pas montrer parce qu'ils ont peut-être pas le temps, pas la possibilité de raconter les choses en perspective, et il n'y a qu'avec une ligne de fuite qu'on peut objectivement regarder quelque chose.
Comment définiriez-vous cette ligne de fuite ?
Prendre du recul sur les choses. Le cinéma, c'est aussi quelque chose dans lequel on a du temps. Un scénario, ça s'écrit sur pas mal de mois. Et puis on prépare, et puis on tourne, et puis enfin vraiment, c'est un temps long et qui participe à un temps de réflexion. Le temps de la fabrication d'un film, c'est vraiment un temps qui permet de tourner autour des choses. En tout cas, c'est la manière dont moi je le fais, dont j'aime le faire, qui me permet de rencontrer finalement tous les points de vue d'une histoire. Et c'était le cas, par exemple, sur En guerre, qui partait en fait d'une image violente. Enfin, c'est une image qu'on voit à la fin du film, mais ma réflexion au départ part d'une image violente parce que c'est tout le temps, quasiment tout le temps ça. Quand surgit sur les écrans les cadres d'Air France qui se font arracher leur chemise, c'est ultra spectaculaire, ça passe en boucle et inévitablement, on est dans un moment de forte émotion, on ne peut qu'avoir une forme d'empathie et de compassion pour ces deux cadres qui se font arracher leur chemise, mais passé ce moment de sidération, on est obligé, si on est vraiment honnête, de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que des gens arrivent à ce moment de colère et de violence ? La violence, elle ne se construit automatiquement que sur la colère, et la colère se construit sur le désarroi. Et c'est toute cette histoire que la fiction peut reconstruire. Qu'est-ce qui se passe avant ? Mais le avant, il n'est pas très spectaculaire. Alors c'est à la fiction de le rendre intéressant, les enjeux. Et
rendre intéressant et spectaculaire, c'est pas la même chose chez vous, Stéphane Brisé.
Non, mais pour arriver au moment spectaculaire, moi j'ai reconstruit, j'ai pas reconstitué les images des deux cadres d'Air France qui se faisaient arracher la chemise, mais je reconstruis une image ultra spectaculaire et ultra violente où on voit une centaine de salariés qui retournent la voiture d'un patron, et c'est ultra spectaculaire à voir, et c'est montré à l'écran par les images de télé. Finalement, le film qui reconstruit très très fidèlement des sujets de télévision nous permet aussi, grâce à la fiction, de voir ce que les chaînes d'infos ne montrent pas.
Diriez-vous que vous avez fait ce film En guerre en opposition à ces images-là, à cette représentation-là ?
Je l'ai fait intégralement pour légitimer la colère des gens, pas pour excuser la violence, mais pour légitimer la colère et construire l'image qui permet de comprendre pourquoi on peut arriver à un moment comme ça d'incandescence absolue.
Alors, pourquoi cette image-là ? Vous avez parlé d'image manquante, que le cinéma prend en charge cette image manquante. D'après vous, pourquoi il y a cette image manquante dans les médias de tous les jours ?
Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas le faire, parce qu'on n'a pas le temps de le faire, parce qu'on ne veut pas le faire ? Est-ce qu'il y a une forme d'idéologie derrière ? Je ne prononcerai pas là-dessus, mais il y a un format peut-être, de la chaîne d'information en continu qui nécessite, pour tenir en haleine le spectateur, d'être constamment dans le spectaculaire. Et on est friand du spectaculaire, c'est fascinant. D'une manière ou d'une autre, même si on n'a pas la télévision chez soi, on voit tous BFM, par exemple, parce que c'est dans tous les bistrots. Et c'est fascinant de voir, généralement, les deux tiers de l'image qui sont occupés par l'image qui tourne en boucle. Il y a peut-être 30 secondes d'image qui tourne en boucle. Alors un coup, c'est des SK qui sortent du tribunal, ça tourne en boucle. Un coup, c'est des images spectaculaires de manifestants. Et puis, il y a quelqu'un qui commente à côté, qui donne son avis, son point de vue. C'est fascinant, cette mise en scène-là. Ça ne peut pas être sans conséquence, une image qui est montrée en boucle. C'est-à-dire que si on passe 20 minutes ou 30 minutes devant la télé, on l'aura vue, cette même image, un nombre de fois incalculable. Donc, elle marque les gens. Et puis, autour de ça, quel est le discours qu'on construit ? Comment on commente ces images ? Si vous regardez ces images sur BFM, vous n'en aurez pas le même commentaire que sur d'autres médias. Enfin, d'autres médias peut-être moins vus que BFM. Alors, pour fabriquer cette image manquante, il faut aussi être le plus objectif possible. Et c'est-à-dire, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, et j'essaye à chaque fois, c'est-à-dire d'aller recueillir la parole de tout le monde. C'est-à-dire, alors moi, je reconstruis un conflit fictif, c'est ni Air France, ni quoi que ce soit, mais tout est absolument construit autour de témoignages réels, tout est plausible, les chiffres sont plausibles, les mouvements sont plausibles, tout est vrai. Mais il faut aller voir tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut aller voir des ouvriers syndiqués, des avocats d'ouvriers, des avocats de patrons, des DRH, des politiques, et écouter tout le monde, comment chacun qui a vécu un conflit social s'exprime dessus, et aussi recueillir, être à l'écoute des dialectiques. C'est super passionnant. La manière dont les mots qui sont utilisés à l'intérieur des réunions, des conflits, c'est absolument, absolument, absolument fascinant. La dialectique à l'œuvre du gouvernement, elle est fascinante. Moi, j'avais lu, pour préparer mon prochain film, j'avais lu le bouquin là du Ismaël Emelien, le gars qui était un conseiller de Macron. Et toutes les trois pages, il parle de il faut maximiser ses possibles. Bon, avec ça, si on n'est pas capable de maximiser ses possibles, ça va pas. Il faut maximiser ses possibles. Oui, il faut être du côté de la win, quoi. Il faut être du côté des gagnants. Faut être. Et c'est ce discours très culpabilisant qui est à l'œuvre. Et ça échappe à Macron quand il dit à ce jeune homme traverser la rue. Mais moi, je traverse la rue. Je trouve du travail. Ben oui. Toi, tu trouves du travail en traversant la rue, pas forcément ce jeune homme. Et c'est toujours très culpabilisant. Travaille si tu veux acheter un costume. C'est le discours du macronien et du néolibéralisme. C'est un discours très, 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 très culpabilisant. Il me fascine en même temps, qui me fascine. Il y a quelques mois, il passe des heures et des heures sans même aller pisser en discutant avec des gens dans des mairies. Il fait le tour de France en faisant ça d'une manière ultra spectaculaire. On retient qu'il parle aux gens parce qu'il a une... Il est balèze. Il est balèze parce qu'il a une capacité à se mettre devant les gens et à donner le sentiment qu'il les écoute. Et alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il les entend certainement, mais il les écoute pas. Et à l'issue de tout ça, il dit « on a compris, on a entendu ». Et quand tout ça s'est un peu apaisé, il sort les retraites. Donc c'est comme s'il avait envie d'éteindre l'incendie avec de l'alcool à brûler, quoi. Je trouve ça complètement, complètement dingue de faire ça. Et c'est pareil quand dans le discours, ils disent « mais on est obligé de le faire, les caisses sont vides ». Cette information, alors, elle n'a pas d'histoire, donc elle n'a pas de vérité. Oui, elles sont vides. Elles peuvent être relativement vides, les caisses. Mais pourquoi elles sont vides? Mais parce que c'est le fruit d'une politique où on a dégagé des millions de jobs en France. Donc en dégageant des millions de jobs... Il y a plein de prestations que les salariés ne payent pas, de fait, puisqu'ils sont au chômage, et que les patrons ne payent pas. Donc évidemment, ça n'aide pas à remplir les caisses. On peut aussi parler de tout cet argent qui est à l'abri chaque année, qui est défiscalisé plus ou moins légalement. Enfin, voilà, dans les paradis fiscaux, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses. Donc évidemment qu'elles peuvent être vides, les caisses. Et donc, quand on fait le constat qu'elles sont vides, mais sans expliquer pourquoi elles sont vides, et qu'on fait payer ensuite à tous toutes les personnes, pas parmi les plus riches évidemment, comment dire, l'addition, je trouve ça raide. C'est aussi ces 30 dernières années, on bat chaque année des records de distribution de dividendes. Ça veut dire que quand une entreprise fait des bénéfices, on en redistribue une énorme partie, et la France est championne d'Europe de ça, aux actionnaires. Ça veut dire qu'on ne revalorise pas pendant ce temps-là les salaires. Et tant qu'on ne revalorise pas les salaires, évidemment, les prestations ne grossissent pas. Donc, tout ça explique aussi pourquoi les caisses sont vides. Donc, c'est très indécent de s'arrêter à juste cette idée de les caisses sont vides. Donc, on est obligé de faire ça. Vous vous rendez compte, on est obligé de le faire. Mais pendant ce temps-là, et ce n'est pas idéologique de le dire, pendant ce temps-là, les plus riches, beaucoup de gens, enfin quelques personnes, se sont enrichies ces 30 dernières années. Donc c'est un système qui est objectivement, et ce n'est pas de l'idéologie de le dire, au service de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre. Donc ce plus grand nombre a évidemment raison, à un moment, de descendre dans la rue en disant « on n'en peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus, ce n'est plus possible ».
Vous avez répété trois fois « ce n'est pas idéologique de le dire, Stéphane Brisé ». Votre métier de metteur en scène est aussi un métier où on prend position, où on s'engage, où vous vous gardez bien d'utiliser ce terme de cinéaste engagé ou cinéaste social?
Bah, le problème, c'est pas tant moi de l'utiliser le terme, c'est la manière dont il va être interprété, et que j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'on parle de cinéma engagé, on a l'impression que le film devient une espèce de tract politique un peu indigeste, ce qui n'est pas le cas. Ken Loach, il fait des films engagés et c'est toujours des films passionnants, bouleversants, il crée des émotions et c'est ça aussi, le cinéma, il sert à raconter le monde si on veut. Si on veut, on n'est pas obligé, mais il peut servir à ça. Et moi, j'aime bien ça, en racontant des histoires d'individus. Parce que c'est toujours la question de la place d'un individu, d'un homme ou d'une femme, à l'intérieur d'un système. C'est ça qui me passionne. C'est la manière dont un système peut pervertir un individu ou le modifier. Comment le système modifie un individu, en bien ou en pas bien.
Monsieur Bandori. Vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous?
Oui, le groupe, il a tenu ses promesses d'investissement.
On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole.
Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock.
Ouais, voilà.
Écoutez, non, mais c'est sans appel.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Stéphane Brisé, metteur en scène ce matin dans le Réveil culturel pour cette journée spéciale sur France Culture, en raison d'un mouvement social. Comment rendre compte de ce que vit la société par une œuvre artistique, par une œuvre de fiction en tant que cinéaste? Quand vous voulez, par exemple, traiter d'un sujet qui concerne les Français ou qui concerne le monde contemporain, quelles sont les questions que vous vous posez, Stéphane Brisé?
J'essaye de ne pas partir d'a priori. J'ai une idée de l'endroit où j'ai envie de regarder, quand c'était en guerre, à l'endroit d'un conflit social qui va déboucher sur une image violente. Donc je vais construire autour de cet endroit, je vais construire un conflit social, et puis je ne suis pas ouvrier, je ne suis pas cadre, je ne suis pas sociologue, donc j'ai pas passé des années à étudier le sujet, donc je vais rencontrer les gens qui sont à l'intérieur du cercle qui m'intéresse.
Ça passe par là, par des rencontres, par des interviews avec les protagonistes?
Ah, mais avant de faire de la fiction, avant de construire la fiction, je rencontre des gens, mais je rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Je rencontre des dizaines de personnes et on les rencontre en 3-4 heures. Ils nous expliquent ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, leur histoire. Et c'est en fait à l'issue de tout ça, De plusieurs mois, hein, ça prend des mois, de rencontres, que finalement la fiction va se construire. Donc il y a un périmètre qui est défini, et à l'intérieur de cet espace-là, eh ben, on va rencontrer le maximum de protagonistes possibles, mais avec toujours l'idée de ne donner à personne un discours caricatural. Je veux juste faire la démonstration qu'en étant très objectif avec le discours de chacun, le système est assez dingue pour se ridiculiser lui-même. C'est pas à moi de ridiculiser les uns ou les autres. Le système, quand on prend un tout petit peu de recul dessus, et ça sert à ça le cinéma, ça sert à s'éloigner un petit peu, de faire un plan large sur une situation, le système est assez dingue et assez fou pour raconter son propre délire.
Vous allez bientôt tourner votre prochain film, Stéphane Brisé. Est-ce qu'il restera dans cette veine sociale, c'est-à-dire autour des conflits sociaux, autour de la société d'aujourd'hui, de l'économie d'aujourd'hui?
Bah oui, parce que c'est passionnant, parce que j'ai ouvert cette porte-là, je dirais en moi d'abord, il y a quelques années. Le sujet m'intéresse depuis tout le temps, mais je me sentais pas forcément suffisamment peut-être légitime pour m'en emparer. Et il y a un moment de ma vie où c'était au moment de la loi du marché où je me suis senti légitime pour aborder ce type de sujet. Et film après film, tout ce que je découvre, tout ce que je comprends. Je trouve ça totalement fascinant de mieux en mieux comprendre le monde et puis de réfléchir à la place des individus à l'intérieur de cette mécanique. Le prochain film, oui, film social, enfin en tout cas politique au sens l'organisation de la cité, la vie de la cité. Et je regarderai cette fois-ci les cadres, un directeur de site industriel qui sera joué par Vincent Lindon, qui est à un moment de sa vie où il est en train de tout perdre parce que l'injonction qu'il reçoit de dégager quelques dizaines de personnes à ce moment-là de son entreprise est une décision donc qui est clairement boursière et qui n'a plus de sens. Avec ces quelques dizaines de personnes en moins, à ce moment-là, de l'histoire de son entreprise ne peut plus fonctionner. Il a été capable de faire le travail pendant un certain temps. C'est un bon soldat du système, pas méchant, qui ne s'est jamais questionné et qui, à un moment, va se retrouver être obligé de se questionner parce qu'il est en train de tout perdre, il est en train de perdre sa santé, il est en train de perdre sa vie, il est en train de perdre sa femme, il est en train de tout perdre. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que les ouvriers ont été très très largement malmenés et tout a été construit pour que les lois soient faites vraiment, vraiment, vraiment objectivement à l'avantage du marché et des patrons. Mais les prochains sur la liste, c'est les cadres. Parce que déjà, on voit la manière dont ils sont, dont ils explosent en vol. Le nombre de burn-out de cadres est colossal. Il y a même aujourd'hui un nombre hallucinant de jeunes qui sortent des écoles de commerce. Ils ont à peine mis un pas dans le monde de l'entreprise, qu'ils explosent en vol et même ils explosent à l'intérieur de l'entreprise. Alors, on les paye bien, très bien même, pour qu'ils ferment leur gueule et qu'ils agissent et qu'ils obéissent. Alors, certains le peuvent. Peut-être avec une certaine dose d'inconscience, de déni, de cynisme peut-être. Et puis d'autres à un moment, alors que c'est des gens, c'est pas des révoltés, hein. Ils n'y arrivent plus. Et ils n'y arrivent plus. Et si ces gens-là n'y arrivent plus, c'est vraiment que le système a un énorme problème de sens, quoi. Et c'est ça que j'ai envie de filmer avec dans ce prochain film.
Qui a un titre déjà, Stéphane Brisé?
Ouais, il y a un titre, mais je sais pas si je garderai le titre, parce que je suis un peu habitué à modifier les titres. Donc, pour l'instant, il s'appelle pour le meilleur et pour le pire. Parce que ça englobe à la fois le couple et l'entreprise. Parce que le lien des individus à leur entreprise est un lien fait de loyauté, un peu comme dans le couple. Mais il est tout à fait possible que ça change en cours de route. Donc, en tout cas, ça sera un film avec Vincent Lindon qui jouera le.
Encore.
Ouais, mais encore parce que c'est quand même un privilège incroyable d'avoir croisé la route de quelqu'un comme ça qui se questionne avec moi sur ce qu'on est en train de fabriquer, pourquoi on le fabrique, à quel endroit on a envie d'être. Et puis on va ensemble retrouver Sandrine Kiberlin. Et c'était il y a 10 ans qu'on avait tourné ensemble, Mademoiselle Chambon. Donc c'est super émouvant de se retrouver tous les trois et plein de monde autour. Marie Drucker aussi qui va jouer, pas du tout Marie Drucker, qui va jouer un vrai rôle. Elle est complètement hallucinante de vérité. Et puis plein de cadres et d'ouvriers, quelques ouvriers aussi. En fait, c'est un film où on va, les cadres vont parler des ouvriers alors qu'on voit assez peu les ouvriers. Voilà.
Stéphane Brisé, quand vous tournez un film, vous avez l'impression que peut-être vous allez changer le monde, changer chez des gens la perception du monde. Je pense que pour s'engager dans de telles entreprises, il faut aussi être optimiste. Et en même temps, vous savez très bien que ce ne sont pas des films qui changent des systèmes politiques.
Ouais, bah, il faut être un peu idéaliste, mais force est de constater que ça ne change rien. Donc il faut partir avec cette idée que ça va tout changer, alors qu'on sait que ça ne va rien changer. Donc c'est quand même une sorte de schizophrénie. Mais il faut être habité par quelque chose, par une nécessité. J'ai le sentiment d'être... un peu comme quelqu'un avec une lampe torche qui éclaire une des petites lumières qui éclaire, quoi. Voilà, je trouve qu'on a moins de chances d'avoir un accident ou la nuit en voiture si on allume les phares. Donc voilà, j'ai l'impression d'être juste une des petites torches. Alors il y a plein d'autres réalisateurs qui font le travail, ce travail-là aussi, avec l'idée d'éclairer un peu notre monde dans les endroits qui sont un peu sombres. Je trouve ça assez fascinant de fabriquer de la fiction. Ce qui est terrible à dire, c'est que c'est une situation assez privilégiée pour créer de la fiction parce que c'est une situation de guerre, en fait, de guerre économique, de conflit, d'opposition entre des plus riches et des moins riches, des privilégiés et des moins privilégiés. Et donc, inévitablement, le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui peut créer des fictions extrêmement puissantes. Donc, ces sujets m'intéressent, mais ils sont aussi très, très intéressants à s'emparer parce qu'on peut fabriquer des histoires extrêmement fortes, mais pas en étant didactique, en regardant les hommes vivre. Et en regardant les hommes vivre, et finalement beaucoup mourir en ce moment, c'est fascinant ce que nous raconte notre époque et d'une violence inouïe, et est donc fascinant à regarder et fabriquer de la fiction à partir de ça. Ouais, je trouve ça assez incroyable.
Merci Stéphane Brisé.
Merci à vous.
Corinne Amard à la coordination et Vincent Abouchard à la réalisation de ce réveil culturel du 18 décembre 2019. En raison d'un conflit social, c'est une journée spéciale sur France Culture dans un instant. Le journal, tout de suite après, Julie Gacon pour les enjeux internationaux. Bonne matinée.